RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui avec Laura Varco-Martinez qui est sophrologue, Charles Consigny l'avocat et Mourad Boudjelal l'éditeur de bande dessinée. Justement, c'est une BD dont on va parler maintenant avec un candidat à l'élection présidentielle.
François Ruffin, bonjour. Bonjour.
RMC, face aux grandes gueules.
Il y a toujours un petit jingle, Olivier.
Mais oui, mais j'avais oublié.
Bonjour
ça
François Ruffin.
Bonjour.
Les aventures de François Ruffin, député reporter, Picardie Splendor aux éditions Les Arènes.
On va en parler, mais tout d'abord une question parce que c'était l'objet de notre débat juste avant. Vous avez vous aussi une note confidentielle pour savoir précisément quelle est la cible électorale que vous visez comme Raphaël Glucksmann?
Ouais, je vise les propriétaires de yachts qui payent pas leurs impôts en France, mais ont un paradis fiscal à Jersey. Voilà notre cœur de cible. Non, pour être sérieux, moi je veux la France en entier. Je veux pas des bouts de France.
Il y a pas de part de gâteau.
Il y a pas des
parts de marché.
Des parts de segments avec on cible et puis ceux-là on les laisse tomber. Il y a pas de ça quoi.
Donc vous parlez à tout le monde.
Depuis 25 ans je parle à tout le monde. Et dès qu'un patron m'ouvre la porte, je discute avec lui pour voir quelle est sa vision à lui de la société. Dès que c'est un militaire à l'armée, j'y vais. Et évidemment, je suis de manière plus quotidienne aux côtés des auxiliaires de vie, des caristes, des ouvriers.
Et vous serez candidat jusqu'au bout, même s'il n'y a pas de primaire à gauche ?
Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je souhaite qu'il y ait une primaire pour des raisons de départage. Il y a plein de talents à gauche et c'est quand même le meilleur mode de choix que de laisser parler les gens. Pour des raisons de débordement, je pense qu'on aurait 2 ou 3 millions de personnes qui se saisiraient d'un bulletin un peu comme on reprend son destin en main. Et pour des raisons de démocratie, ça fait 10 ans que Macron s'assoit dessus. Si on veut que ça change, eh ben, qu'on le prouve dès maintenant. Maintenant, si les petits marquis de la politique et les apparatchiks, ils veulent pas de ça, pour moi, il y aura pas de négociation de salon, il y aura pas de congrès arrangé et ça se passe et ça se passe déjà devant les Français. J'ai fait un certain nombre d'entretiens d'embauche, puisque vous savez, j'ai vu une petite annonce qui disait « République cherche président, CDD de 5 ans, homme ou femme, salaire à auto fixé, nourri, blanchi, logé ». Je postule compte tenu du fait que je pense qu'il y a des choses, il y a des cases que je coche pas. Hein. J'ai pas détourné de fonds, j'ai pas reçu de valise de Kadhafi, j'ai pas fait l'ENA, ni même Sciences Po, donc je vois bien que j'ai un certain nombre de handicaps. Mais je pense qu'il y a des... Ça fait pendant 20 ans, j'ai eu ma petite entreprise et finalement, j'ai pas fait de déficit pendant tout ce temps-là. Ça serait bien pour la France.
Oui, mais vous allez subir la pression de tous ceux qui vont dire oui, mais à gauche, donc déjà, la gauche part pas favori. Si en plus, elle est divisée, elle n'a aucune chance d'être au deuxième tour. Et donc, pour éviter un deuxième tour, je sais pas, Bardella-Philippe, il va falloir s'unir à un moment donné.
Écoutez, la proposition d'union, elle est faite autour de la primaire. Moi, j'étais dit que j'avais les bras grands ouverts de Philippe Poutou à François Hollande. Vous voyez, c'est difficile de faire plus large.
C'est un grand écart.
Donc, j'étais favorable à ça. Maintenant, si c'est pas ça, ce sera aux Français de trancher et au peuple de gauche de trancher, mais peut-être même au-delà.
Alors, cette BD, Picardie Splendor, c'est des cartes postales de la Picardie, cette Picardie que vous aimez, cette Picardie qui travaille, cette Picardie qui parfois est ostracisée, victime de racisme, entre autres.
La pan Picardie, puisque quand même, on va en Normandie, donc on va à Gennevilliers, on va dans le sud, on se balade beaucoup. Non, et donc, d'abord, c'est un besoin que j'ai. Moi, c'est un besoin personnel de mettre, vous savez, la politique, ça peut être ennuyeux, sale, laid, et de mettre là-dedans de la beauté et de l'humanité, de donner à voir les vies, les voix, les visages des gens pour qui on se bat. Et c'est sûr que, puisque ça s'est écrit ces 2 dernières années, ce que j'ai ressenti, c'est une France en tension, à bout de nerfs, au bord de l'explosion, et mon sentiment, c'est qu'on a une France fracturée, mais qu'on peut encore la réparer.
Mourad Boudjelal, Charles Consigny, Laurent Varton-Martinez. Alors, qui veut prendre la parole en premier ? Charles.
Moi, ce que je trouve, c'est que je ne partage pas du tout les convictions de François Ruffin, en tout cas pas sur les solutions pour le pays, même si je pense naturel et sain qu'un responsable politique se tourne avant tout vers les classes populaires. Ça me paraît un peu un béaba qui a été oublié par la Macronie, qui a eu tendance à être un pouvoir très bourgeois. Voilà. Mais je partage pas du tout les solutions qu'ils préconisent, qui, à mon avis, enfoncent les gens dans la pauvreté. Ça, c'est ma position sur le fond. Sur le plan politique, j'observe que, au fond, il n'y a pas vraiment de candidat de gauche aujourd'hui, puisque Mélenchon n'est pas un candidat qui peut gagner, et Hollande et Glucksmann n'arrivent pas à se surmonter l'un l'autre, à se dépasser l'un l'autre, à s'imposer. Et peut-être que le défaut de François Ruffin, c'est que sans doute il parle au cœur des électeurs de gauche, mais il est peut-être moins habile que d'autres pour les manœuvres partisanes. Je pense que vous pourriez apprendre de François Hollande. Mais je vous le dis, voyez, c'est pas du tout une attaque, hein.
Non, au contraire.
Même.
C'est un compliment. Même.
C'est presque un compliment. Il y a des hommes politiques qui sont très forts pour agréger à eux, on ne sait comment, des tas de gens. Donc Hollande, il est de ceux-là, il agrège à force de je ne sais quoi, de déjeuner, de promesses, de manœuvres diverses et variées. Et il y en a d'autres.
C'est de la politique, ça s'appelle. Hein.
C'est de la politique, oui, mais la politique, il y a ça, et puis il y a aussi l'autre aspect aussi, qui est de partir sabre au clair avec ses convictions. Et vous, je dirais qu'il y a 85% de sabre au clair et seulement le reste. Bon, peut-être que vous pourriez rééquilibrer les choses. Voilà, c'est un peu ma question ou ma remarque. Comment feriez-vous pour finalement transformer cette sympathie qu'ont les électeurs de gauche pour vous en un mandat d'être candidat en leur nom?
François Ruffin.
Moi, je parle aux Français plus que dans un arrière-salle à des déjeuners. Ça, c'est très clair. Et je viens dire, moi, ici, que pour moi, on a trois défis, par exemple, à affronter. On a un défi qui est le défi productif, qui suppose qu'on pour avoir un grand pays, il faut une grande industrie qui a été complètement laissée tomber ces 40 dernières années. On a un défi démographique avec de plus en plus de personnes âgées dont il faut s'occuper, d'où aussi mon focus sur les questions des auxiliaires de vie. Et on a un défi climatique qui est un gigantesque défi pour les Français, mais pour toute l'humanité, qui suppose à peu près tout transformer, nos déplacements, nos logements, notre industrie, notre énergie, notre culture, notre agriculture. Et pour tout ça, le défi productif, le défi démographique, où le défi climatique, la solution, c'est le travail. C'est travailler ensemble. C'est faire France ensemble pour relever ces défis-là. Quand depuis 40 ans, on a des dirigeants qui n'ont eu à nous proposer comme défi que le marché, la compétitivité, la mondialisation. Ça n'est pas quelque chose qui donne envie de faire France ensemble. Et ma conviction profonde, je suis travailliste. Je pense que le travail va mal depuis 40 ans. La société va mal parce que le travail va mal. Donc il faut je mets au cœur de mon programme le travail. J'étais par exemple, pour qui je fais campagne? Pas pour François Hollande, pas pour Boris Vallot, pas pour Raphaël Guchman. Je fais campagne pour les gens. J'étais le 8 mai. Sur le site de ID Logistique, sous-traitant de Amazon, 77 milliards d'euros de profit l'année dernière. Les caristes sont à 1500 euros. Ils transportent 10 tonnes par jour. Avec les bras, 10 000 kilos de croquettes pour chat et ainsi de suite. Et à la fin, ils sont à 1500 euros.
Ils sont pas à 1500 euros.
Ils sont à 1500 euros.
Non, ils sont à 2700 euros. C'est ce qu'ils coûtent, les caristes.
Il coûte
pour l'employeur. Avec
les
2700, c'est là que vient le problème d'ailleurs. Avec la différence entre 1500 et 2700.
Avec les agissements, et ainsi de suite, sur des bas salaires comme ça, c'est pas vrai, monsieur Boudjelal.
Non, vous me parlez de salaire au-dessus du SMIC, on n'est pas en loi Fillon.
On est là sur un sous-traitant d'Amazon qui fait plus de 31% de profit l'année dernière. ID Logistique, c'est plus 20%. Donc, on a, et même de manière générale, les films dans notre pays, c'est plus 10% de dividendes l'année dernière. On a aujourd'hui dans une France qui d'un côté une France d'en haut qui se gave et une France d'en bas qui est rationnée. C'est des travailleurs ordinaires qui disent nous.
C'est l'État qui se gave plus que les entreprises. Hein.
Là, en l'occurrence, je veux bien avoir une critique de l'État à y venir, mais là aujourd'hui, on a les entreprises du CAC 40, c'est plus 10% de dividendes et de rachats d'actions. Oui. Et moi, je suis d'accord pour indexer les salaires sur les dividendes, voire l'indexer sur les salaires des PDG. Ça change.
Et les risques, vous les indexez aussi?
Pardon?
Les risques entre les salariés et les entrepreneurs, vous les indexez? Les mêmes risques? On met les mêmes risques? C'est-à-dire que si ça perd de l'argent, si une boîte elle dépose, les salariés sont cautions comme le dirigeant? On fait pareil? Les nuits blanches, les soucis de trésorerie, on fait tout, on globalise tout ou juste les avantages, on les partage et les problèmes, on se les garde?
Non, mais le risque, les salariés vivent le risque. Ils vivent le risque tous les jours. Ils vivent le risque non seulement sur le risque de licenciement, mais ils vivent le risque parce que tous les ans, c'est 100 000 personnes qui sont mises en inaptitude, qui sont broyées physiquement ou psychiquement par le travail, qui souffrent de troubles musculosquelettiques ou de burn-out. Ça, c'est du risque.
Vous avez aussi le patronat,
Le burn-out, c'est depuis que c'est apparu. Je vais vous dire quelque chose, sincèrement. Je vous respecte et je trouve que vous faites du bien à la politique parce que vous êtes, même si je voterai pas pour vous, sauf s'il y a un deuxième tour Bardella-Ruffin, je pense que je voterai pour vous. Que ce soit clair. Mais je trouve que vous avez un des rares hommes politiques qui est être sincère. Je suis pas d'accord avec vous, mais vous êtes sincère. Ça, c'est indéniable. Ce que vous le dites depuis toujours. Avec et vous êtes pas sur des modes, sur des tendances, sur des sondages. Vous avez une idéologie sincère et je trouve que ça fait du bien à la politique, un peu de sincérité. Même si on n'est pas d'accord toujours avec les idées. C'est ce que je pense. Mais on est quand même dans, comment vous expliquer? Si vous voulez que le profit n'existe plus, même dans des façons disproportionnées, les prises de risque n'existeront plus dans des proportions disproportionnées. Et on est sur un marché mondial. Aujourd'hui, si vous voulez taxer sans arrêt comme vous le faites, les gens iront ailleurs. Moi, j'ai créé beaucoup d'emplois, j'ai créé beaucoup de richesses dans ce pays, mais je suis le premier à réfléchir à partir. Là, je vais peut-être vendre une société et je me dis que la prochaine société que je monte, le siège, il sera pas en France. Et ça me fait de la peine de le dire. Mais j'y pense pour la première fois de ma vie. Parce qu'on est sur une surfiscalité, on est sur une fiscalité qui devient confiscatoire. Et moi, autant je peux respecter vos idées, parce que bien sûr que je suis attaché aussi aux classes populaires, au partage des richesses, mais on peut pas faire n'importe quoi dans une économie mondialisée.
Alors,
on
a trouvé notre place. François Ruffin.
J'ai jamais eu pour but d'interdire le profit.
Mais vous en parlez comme si c'était un crime.
Non, il y a les surprofits, il y a les surprofits.
Mais c'est quoi un surprofit en fait?
Écoutez, quand chaque année les dividendes battent des records et que c'est du record sur record, je sais pas si vous vous souvenez de Sergueï Boubka, perchiste soviétique, qui tous les dimanches après-midi à tous les concours de soit la perche, il battait le record.
Ouais.
Bon, parce qu'à chaque fois il avait une prime.
Il vous lancer dans le saut à la perche, monsieur.
Mais non, justement. Enfin, là, et il s'agit de dire, mais non, on doit rééquilibrer les deux plateaux de la balance. Moi, je suis pas là pour interdire les profits, mais je suis là pour que on soit dans une société de décence et de bon sens. Je le dis, quand les 500 fortunes françaises pesaient l'équivalent de 6% du PIB il y a 30 ans, que c'était 20% à l'arrivée d'Emmanuel Macron.
Qui sont ailleurs. Je pense que le pays a plus besoin de Bernard Arnault que de Jean-Luc Mélenchon.
Vous êtes trop intelligent pour pas le savoir que la plupart de ses fortunes sont faites ailleurs.
Mais c'est pas vrai,
LVMH fait sa fortune ailleurs dans le monde entier, comme Total.
Et ça crée des richesses pour le pays.
Ces fortunes-là sont faites aussi ici, je le redis. Ces 500 fortunes, c'était 6% du PIB il y a 30 ans. C'était 20%
à l'arrivée de la mondialisation.
Écoutez, je peux aller au bout d'une phrase. Je sais que vous êtes à peu près tous d'accord ici.
Non.
C'est pas grave.
Mais même dit que j'avais voté pour vous, peut-être.
C'est pas une prise de position.
Je vous ai même pas parlé d'LVMH. Donc, si vous voulez,
sur
les 500, il y en a 500. Il n'y en a pas un. D'accord? Les 500, c'était 6% du PIB il y a 30 ans. C'était 20% du PIB à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. C'est aujourd'hui au-delà des 40%. Et dans le même temps, qu'est-ce qui se passe? La France, au niveau des inégalités, vient passer au-dessus de la moyenne européenne.
Malgré un pays qui est redistributif, donc c'est peut-être un problème du modèle.
Ça veut dire que le pays ne l'est plus redistributif.
Bah si, on l'est, on est plus au monde.
On est dans une fiction là. Le pays le plus redistributif au monde, c'est devenu une fiction. Aujourd'hui, le contenu des transformations fiscales qui ont été faites par Emmanuel Macron, il a allégé les impôts sur les plus gros, à la fois les plus grosses entreprises et sur les plus grandes fortunes, et il a renforcé la fiscalité sur les petits et les moyens, à la fois du côté des entreprises et des gens.
Si vous augmentez la fiscalité et que les entreprises quittent le pays, vous faites quoi?
Je demande d'abord les entreprises dont c'est comme poisson, ça veut rien dire. À l'intérieur, il y a les requins et il y a les sardines.
Pour moi, un patron, c'est quelqu'un qui parle de son argent.
Donc, je fais très bien la différence entre le patron de PME, de l'industrie que je rencontre, et les grandes fortunes que je viens de citer. Les firmes dont je parle, depuis 10 ans, c'est elles qui reçoivent le plus d'aide. C'est elles qui payent le moins d'impôts.
Elles ont pas d'aide, elles ont des exonérations fiscales.
Plus des aides.
Et de la cavalerie.
Du crédit impôt compétitivité emploi, du crédit impôt recherche. Ce sont,
pas d'argent.
Elles reçoivent plus d'aides, d'exonérations, d'allègements, de tout ce que vous voulez, que les petites et moyennes entreprises. Elles payent moins d'impôts que les petites et moyennes entreprises.
Vous ne répondez pas à la question, monsieur Ruffin.
Je vais vous répondre, d'accord? Or, depuis 10 ans, ces firmes-là, elles suppriment des emplois. Elles ont pu supprimer plus de 300 000 emplois dans le pays.
Mais c'est le monde qui est comme ça aujourd'hui.
Et heureusement qu'il y a les PME. Heureusement qu'il y a les TPE, parce que ce sont eux qui...
Vous voulez une France de petits commerces et d'artisans?
Pas des petits commerces. C'est que même si on veut de l'industrie, et ça c'est les rapports officiels par exemple de M. Luanzi, qu'est-ce qu'il dit? Et ça devait être remis à Emmanuel Macron. Il dit, c'est fini, l'État, il pense par le gros et par le haut, c'est plus comme
mais
ça qu'on doit penser.
Ruffin, vous n'avez
on
pas
doit penser
à
par
à
les petits territoires, on doit penser par la PME à qui on permet de croître. Bon,
alors les petits, qu'est-ce que vous leur proposez?
Alors, me poser une question aussi.
Oui, alors, juste moi, avant de poser, enfin, c'est de reposer la question de Mourad à laquelle, malheureusement, vous n'avez toujours pas répondu. Moi, je voulais vous féliciter quand même pour votre BD.
Bah, merci.
Non, c'est assez rare qu'une BD soit bien dessinée. Et là, elle est bien dessinée.
Non, mais vraiment. Et je pense que sans surprise, vous savez que je ne suis pas d'accord avec. Je suis d'accord avec vos constats, mais pas d'accord avec vos solutions. Donc, c'est en plus avec toute franchise, et je trouve ça d'autant plus très intéressant parce que ça remet, si vous voulez, vous parlez aux jeunes en faisant ça, parce que maintenant il y a une explosion des mangas, des BD. Vous avez même des romanciers. Je pense à Laurine Roux qui a mis l'un de ses très beaux livres sous forme de BD pour que justement ce soit accessible à plus de jeunes. Donc merci de faire ça et de pas tomber dans le jeu des réseaux sociaux comme la plupart de vos collègues.
Mais si vous aviez fait, je te coupe une seconde, si vous aviez fait une étude comme Monsieur Glusman, vous sauriez que votre cœur de cible n'est pas le cœur de cible qui lit de la BD.
Mais
j'ai pas de cœur de cible. Ça tombe bien. Mon cœur de cible, c'est la France.
Avançons, là, parce qu'il reste peu de temps.
Voilà. Laura. Donc, juste déjà, c'était merci pour ça. Et merci de pas jouer le jeu des réseaux. Maintenant, je suis désolée, mais vous n'avez pas répondu à Mourad. Et moi, la réponse m'intéresse. Que ferez-vous quand les entreprises auront délocalisé leurs sièges sociaux? Par exemple, en Irlande, où vous avez 12% de fiscalité pour une entreprise. Et que les usines seront rebasculées dans des pays de l'Est ou dans des autres pays où la fiscalité est meilleure et où les personnes sont payées moins cher.
Ouais. Écoutez, d'abord, ces entreprises-là, je le dis depuis 10 ans, elles suppriment de l'emploi dans notre pays.
C'est toujours pas répondre à la question.
Elles ne partiront pas. Elles ne partiront pas parce qu'il y a plein d'avantages au fait d'être situées en France et d'avoir son capital en France.
Mais si vous leur rajoutez des taxes, les avantages vont disparaître et elles vont partir.
Mais le choix aujourd'hui, il est, est-ce qu'on souhaite que dans ces entreprises, il y ait du capital national ou qu'on aille faire de la danse de ventre devant les fonds d'investissement américains pour que ça soit du capital international?
Ça, je suis d'accord avec vous, mais vous ne répondez toujours pas à la question. Comment votre système tient? C'est pour ça que c'est pas mon système de taxes. C'est les entreprises parce que je ne veux pas être dépendante de ces grosses entreprises. Comment faites-vous si ces grosses entreprises partent?
Mais elles seront taxées tout comme.
Si elles sont plus en France, vous ne pourrez pas les taxer. Si vous n'aurez plus la mainmise.
McDonald's doit être. McDonald's n'a pas son siège en France et pourtant il devrait payer ses impôts en France.
Ah mais ça vous avez
pas. Il devrait, mais il peut pas.
Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'effort qui est fait en ce sens-là. Parce que quand.
McDonald's partira.
Parce que quand ça apparaît publiquement dans les LuxLeaks et dans un certain nombre de documents que les grandes entreprises fraudent, fuient, et ben il n'y a pas un poids qui est mis par le ministère public pour dire allez, on met le paquet, allez les rattraper par le callback.
Si vous changez le modèle économique,
il nous reste une
minute. Je vais vous dire comment faire cette grande révolution fiscale. Parce que le pays a besoin d'une révolution fiscale pour deux raisons. Plus personne ne comprend rien, ni sa feuille d'impôt, ni à sa fiche de paye. Donc il y a besoin.
Où va l'argent?
Il y a besoin d'une grande révolution fiscale.
Oui, mais pour rapprocher le brut du net, c'est ce que veulent les salariés.
Je vous dis, ça peut pas se décider par un président, ça peut même pas se décider par des ministres, ça peut même pas se décider par une assemblée, parce que il va y avoir, quand on va ouvrir cette boîte-là, un tel ressentiment dans le pays que ça ne peut être fait qu'avec le pays. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des états généraux de la fiscalité qui mettent sur le devant de la scène, la question du budget de la nation et de nos protections, et que à l'intérieur de ces états généraux, il y ait des retraités, il y ait des salariés, il y ait des indépendants, qu'il y ait des entrepreneurs, qu'il y ait des artisans, et qu'il y ait aussi un siège pour Bernard Arnault, et que c'est là que c'est la question centrale, la question centrale de notre fiscalité soit débattue. Et je suis convaincu que dans un cadre comme celui-là, il y aura des solutions, sinon consensuelles, du moins des compromis qui seront trouvés.
Une dernière question qui n'a rien à voir avec la fiscalité des entreprises, mais je voulais avoir votre avis. C'est l'Eurovision ce week-end. Il y a des pays qui ont décidé de ne pas retransmettre la cérémonie. Je pense à l'Irlande, l'Espagne ou la Slovénie, parce que Israël y participe. Est-ce que la France devrait également boycotter l'Eurovision ce week-end?
Oui. Il ne doit pas y avoir de double standard. On ne peut pas être au 20e train de sanctions contre la Russie, et je les approuve, et ne rien faire, ne pas avoir des sanctions contre l'État d'Israël de Benjamin Netanyahou, qui est accusé de crimes de guerre et génocidaire. Donc oui, il doit y avoir, Il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures. C'est une faute morale que de faire deux poids, deux mesures. Mais c'est une faute diplomatique aussi, parce qu'on ne peut pas être entendu des autres pays. On ne peut pas être entendu des pays du Sud qui vont nous dire « Mais c'est quoi vos valeurs ? C'est quoi la démocratie ? C'est quoi vos droits de l'homme ?» quand ça s'applique de manière différente quand il s'agit de la Russie ou d'Israël. Donc oui, je suis pour que Israël ne participe pas à l'Eurovision. Je suis pour que la France intervienne auprès de l'UEFA pour que Israël ne soit plus dans le championnat d'Europe des nations et que ça amène à une remise en cause profonde de la direction prise par l'État d'Israël, à la fois à l'égard des Palestiniens, mais aussi parce que maintenant, c'est un instrument de chaos mis au Moyen-Orient.
Et est-ce que l'Iran doit participer à la Coupe du Monde de foot ?
L'Iran, pour l'instant, est un pays attaqué et non pas un pays qui attaque.
Non, il attaque son propre peuple, c'est encore pire.
C'est pas aux États-Unis de décider qui est le bien et le mal. Hein.
Il attaque son propre peuple.
Voilà. Les questions. Mais oui.
Il y a d'autres pays qui attaquent leur propre peuple.
Je veux n'avoir aucun soutien auprès du gouvernement iranien, auprès de qui, dont j'ai dénoncé les crimes depuis des années et des années. Maintenant, ça c'est. Est-ce que il doit y avoir un droit d'ingérence sur ce qui se passe à l'intérieur des pays. Vous savez, pour moi...
Donc on accepte l'Iran à la Coupe du Monde et pas Israël à l'Eurovision.
En tout cas,
bon.
la ligne de partage, je veux bien réfléchir à cette question sur l'Iran.
Je veux bien réfléchir.
Mais je veux vous dire que la ligne de partage, aujourd'hui, pour moi, elle n'est plus entre les dictatures et les démocraties. La ligne de partage, elle est entre les pays qui respectent le droit international et ceux qui ne le respectent pas.
Comment on peut sortir des trucs comme ça? Il n'y a rien à voir entre l'Iran et ce qui se passe.
L'Iran ne respecte pas le droit international.
C'est aux États-Unis de définir le droit international. Il y a un truc qui s'appelle l'ONU qui définit les choses. Donc c'est pas aux États-Unis de dire qu'il y a le bien et le mal. Le problème, il y a 150 pays qui attaquent leur peuple.
À ce tarif-là, les États-Unis ne doivent pas être les organisateurs de la Coupe du Monde. C'est pas seulement y participer.
C'est compliqué. Nous ouvrons une porte, elle est difficile à refermer.
La Corée du Nord ne doit pas non plus participer à des compétitions. On peut en plein.
On a les États-Unis comme
fond. On peut aller attaquer l'Érythrée parce qu'ils attaquent son peuple.
Le droit international.
En Érythrée, par contre, il n'y a pas de richesse.
Merci François Ruffin.
Un grand merci à vous.
La BD Picardie Splendor aux éditions Les Arènes. Merci d'avoir été avec nous. Il est 11h25.
RMC.
Alain Marchal. Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2,
3, 4. Il est 11h30. On va continuer notre discussion avec Charles Consigny, Laura Vartan-Martinez et Mourad Boudjelal. On a encore deux sujets de discussion à voir avec vous. Tout à l'heure, là, dans 10 minutes, on évoquera le cinéma Les Fils et Filles 2 qui occupent 20% des premiers rôles à succès. Alors, est-ce que c'est la nouvelle aristocratie ? C'est Marianne qui révèle ça. Mais d'abord, on va s'intéresser à une proposition d'Éric Ciotti. Le maire de Nice, le député UDR, il veut un quoi qu'il en coûte, c'est pour la sécurité en France, un quoi qu'il en coûte sécuritaire.
Oui, c'est alors le maire de Nice, déjà il annonce un nouveau commissariat à Nice, au Moulin, un quartier qui a connu un drame récemment, on en a parlé dans les Grandes Gueules. Il veut effectivement plus de policiers, il veut plus de patrouilles, plus de commissariats, et donc, alors bien sûr si on lui dit, mais tout ça a un coût, il dit mais justement, il faut dépasser l'idée du budget, il faut un quoi qu'il en coûte, donc dépenser, entre guillemets, sans compter, pour la sécurité. Il faudra qu'il nous explique comment il finance tout ça. Il faudra faire quand même des économies à côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Le quoi qu'il en coûte doit revenir, mais uniquement pour la sécurité ?
Non.
Pourquoi alors ?
Non. En fait, il doit y avoir un quoi qu'il en coûte, mais il ne doit pas être sur la police, il doit être sur la justice. C'est-à-dire qu'on est à 18 mois entre un délit et le jugement. Vous avez des peines qui existent en France, vous avez des lois qui existent en France, mais qui ne sont malheureusement pas appliquées. Faute de place de prison ou faute de volonté aussi peut-être politique et judiciaire. Et donc en fait, on nous dit pas qu'il y a pas assez de policiers. Qu'est-ce qu'ils nous disent les policiers ? Ils nous disent on en a marre d'arrêter toutes les semaines les mêmes. Donc en fait, il n'y a pas de conséquences aux actes des gens. Et c'est exactement, j'ai eu une conversation comme ça, et en fait on se rend compte que qu'est-ce qui fait que la délinquance augmente, que les petits larcins qui viennent pourrir la vie des citoyens lambda augmentent, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a aucune réponse judiciaire en face. On vous tape sur les mains et on vous dit c'est pas bien et on vous remet là où...
C'est pas forcément une question de budget ça, c'est une question de...
C'est une question de volonté. C'est pour ça que je dis un quoi qu'il en coûte, peut-être pas financier et en remettant des commissariats, mais un quoi qu'il en coûte de volonté sur la justice. Si vous n'avez pas peur d'être puni, la bêtise, vous continuerez de la faire.
Éric Ciotti veut ce quoi qu'il en coûte sécuritaire, Mourad, d'accord ?
Je suis ni d'accord ni pas d'accord. Je pense qu'il faut un... Ben oui, je pense qu'il faut un... Je suis assez proche de ce qu'a dit Laura.
je pense qu'il faut qu'un quoi qu'il en coûte pour construire des prisons et un quoi qu'il en coûte pour faire de la prévention. Et la prévention, c'est l'économie. On le sait tous. Voilà, il faut un mélange des deux. Mais pas uniquement un quoi qu'il en coûte pour la répression. Il faut les deux. Après, si est-ce que la sécurité des Français aujourd'hui, la sécurité des Français dans la rue est un sujet prioritaire? Je dis oui. Est-ce que c'est un sujet prioritaire en termes budgétaires? Je dis oui aussi.
Aussi.
Bien sûr.
Plus
bien
de policiers dans la rue, dans patrouille, de
peut-être plus de bleu, policiers, mais aussi peut-être que les 8% de chômeurs, ça va pas aider. Ça va pas aider à la sécurité. Il y a des multiples raisons, hein, je veux dire. Et,
et
c'est pas forcément qu'en mettant des policiers. Je dis, aujourd'hui, dans l'état où on est, on peut pas se contenter que de prévention, parce que le mal est trop profond. On est obligé de faire de la répression. Mais on doit aussi prévoir l'avenir avec de la prévention.
Ça évitera peut-être des bavures policières, des policiers excédés.
C'est un peu comme sur la question de notre décrochage économique. En réalité, on connaît les causes de l'insécurité en France. C'est un, la racaillisation d'une partie de notre jeunesse, qui bascule depuis des années dans la délinquance et la criminalité, le trafic de stupéfiants, les vols avec violence, les cambriolages violents qui se multiplient, ce genre de choses. Donc c'est en fait le décrochage de cette jeunesse qui décroche du système scolaire, qui décroche du monde professionnel, qui se met en sécession avec le reste du pays. Deux, c'est alimenté, c'est pas très politiquement correct de le dire, par l'immigration de masse, puisque vous avez 25% des détenus qui sont étrangers et il suffit de se rendre dans un tribunal correctionnel pour voir qu'il y a un problème avec l'immigration de masse et les petits délits du quotidien. C'est une réalité, donc il faut un tour de vis là-dessus. Et trois, c'est le système judiciaire qui aujourd'hui, à mon sens, est dépassé sur le plan philosophique, puisque aujourd'hui la philosophie du système judiciaire français, les premiers actes ne reçoivent pas une réponse pénale immédiatement raide. Les premiers actes, c'est du sursis, etc. Moi, je pense que on doit avoir le courage de s'inspirer des systèmes qui fonctionnent à l'étranger. Et les systèmes qui fonctionnent à l'étranger sur le plan de la sécurité, ce sont des systèmes dans lesquels la sanction qui tombe dès les premiers faits est extrêmement dure. Des systèmes dans lesquels, si vous êtes de nationalité étrangère et que vous commettez un crime ou un délit, vous êtes immédiatement expulsé du pays, avant ou pas. Avoir purgé votre peine, après ou pas avoir purgé votre peine, vous êtes expulsé du pays et vous avez une interdiction de revenir pendant 5, 10 ans, 20 ans. Je pense qu'il faut le faire en France et il faut arrêter de tortiller sur cette histoire des laissez-passer consulaires. Il faut trouver une solution pour aboutir à ce résultat parce que c'est ça qui marche à l'étranger. Donc le quoi qu'il en coûte, engager des dépenses, ça, je trouve ça très politique de la part de Ciotti. Je pense pas que ce soit le sujet des moyens. Les moyens, il y en a quand même.
Sur le quoi qu'il en coûte, faut juste quand même regarder un peu les chiffres. Le budget 2026 du ministère de l'Intérieur, on est à 25 milliards d'euros. Donc c'est quand même une belle et le ministère de la Justice, on est à 11 milliards d'euros.
Il marche pas.
11 milliards d'euros hors ce qu'on appelle hors pension, c'est-à-dire hors les retraites qu'il y a payées. Donc ça veut dire que pour l'Intérieur et la Justice, on est quasiment à
justice,
40 milliards d'euros déjà.
Il faut reconnaître qu'il a le budget
n'a pas les moyens.
Sous Emmanuel Macron a progressé.
Ils n'ont pas assez de moyens.
Mais on reste si on prend l'Europe, on a un budget de la justice qui est un peu en deçà quand même.
Non, mais il faut aussi, encore une fois, je maintiens que en plus c'était avec Charles ce jour-là où on avait le cas de Monsieur Prison qui avait tué son ex-compagne et sa compagne actuelle, alors que ce mec-là n'avait même pas d'interdiction d'approcher, il n'avait pas son bracelet, etc. Donc il y a des moyens qui existent en France. Maintenant, il faut bien se rendre compte qu'il faut s'armer tout de suite. Alors s'armer, c'est ce que je disais, par une volonté judiciaire, parce qu'on a une jeunesse qui est en train d'exploser sur le plan de l'indélinquance et de la dangerosité. Entre 2017 et 2024, on est chez des mineurs, c'est même pas des jeunes adultes, des mineurs, on est à plus 77% pour des infractions sexuelles, plus 148% pour les viols, plus 430% dans des affaires de drogue, plus 228% pour des homicides ou des tentatives d'homicide. À l'époque, quand on était en 2017, on avait 4 jeunes qui étaient interpellés pour des faits comme ça. En 2025, on est à 47. Donc il va falloir prendre les choses en main, et c'est pas juste en réarmant la police que ça va se faire, ou en remettant des commissariats.
C'est pas en ciblant des populations. Alors on va cibler des populations,
c'est symptomatique.
On va dire que dans les dossiers liés à la délinquance fiscale, il y a assez peu de représentation de la population immigrée. Que dans la pédocriminalité et dans le dossier Epstein, il y a des populations qui sont surreprésentées. Est-ce que c'est lié ? C'est une réalité aussi. Voilà, donc on ne peut pas associer des attitudes à des segments de population. Le problème, il est...
Moi, je veux bien.
Oui,
moi, je veux pas
moi j'ai quelqu'un qui me dit que 25%. Tu as raison. Mais c'est pas lié à un problème d'origine, c'est lié à un problème social. Moi, le point commun que je vois entre ces 25%, c'est un problème social. Et je suis d'accord avec ça.
Non, mais si tu veux, moi, c'est un problème politique. L'immigration de masse engendre des déséquilibres, c'est comme ça. Et il suffit d'aller en comparution immédiate à Paris ou n'importe où ailleurs pour voir que effectivement, malheureusement, c'est comme ça. Les étrangers sont surreprésentés.
La difficulté à intégrer un pays présente effectivement une délinquance de masse.
Mais donc, si on veut s'attaquer aux causes, on est d'abord obligé de faire un tour de vis sur l'immigration et d'expulser les gens qui commettent des crimes et des délits. Il faut qu'on arrive à le faire. On est, je pense, un des seuls pays qui n'arrive pas à le faire. On est complètement pieds et poings liés. Le Maroc, l'Algérie, le Mali nous disent non, on ne reprend pas nos ressortissants.
Parce que souvent ils sont français aussi.
Pas toujours. Et donc je pense qu'on fait preuve d'une faiblesse coupable sur ces sujets-là.
Mais vous êtes d'accord pour dire que la pédocriminalité aujourd'hui, la criminalité fiscale, sont aussi les réalités contre lesquelles il faut lutter. Le dossier Epstein a été une gifle pour tout le monde.
Les violences sexuelles, c'est bien le seul crime et délit.
Le dossier Epstein a été une gifle pour tout le monde. On a découvert le poids de la pédocriminalité dans ce pays. Je suis désolé.
Oui, peut-être.
Mais là, pour le coup, c'est parce que ce sont des histoires qui font du bruit.
C'est normal déjà qu'elle fasse du bruit.
Oui, bah merci Mourad.
Epstein, justement, il a été arrêté, mis en prison, et l'affaire, elle a pas duré 20 ans.
Ouais, mais j'ai l'impression.
À la mode américaine, ça a été assez
rapide. J'ai l'impression qu'en France, on est. Voilà, on n'a pas fait ce qu'il faut, mais bon.
Oui, non, mais en France, on n'a pas fait ce qu'il faut, mais là, pour le coup, ça n'a pas d'ethnie, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de religion, ça n'a pas de lien social. La pédocriminalité et les violences sexuelles, c'est pour tout le monde. Hein.
Aujourd'hui, il n'y a pas de complaisance dans le système pénal français avec les pédophiles.
Non.
Aujourd'hui, quelqu'un qui est soupçonné.
Il y en a eu, mais il n'y en a plus maintenant.
Il est quand même rapidement interpellé.
Quand il y a un magistrat qui met sa gamine en photo et qui l'offre et qui prend 6 mois avec sursis, je pense qu'il y a un peu de.
Dans la réponse, il y a peut-être sa qualité professionnelle. Qui explique cette sanction. Oui, les magistrats.
Il n'y a pas d'excuses, quelle que soit ta profession.
Il est midi moins 20. On a un dernier petit sujet à voir avec vous. Au moment où s'ouvre le Festival de Cannes, c'est du côté de Marianne qu'on sort une enquête sur les fils et filles d'eux. 20% des fils et filles d'eux occupent les premiers rôles à succès du cinéma. Alors, est-ce qu'on doit parler d'une nouvelle caste? Est-ce que ce sont les nouveaux aristos, les nouveaux aristocrates? Il est midi moins 20, vous venez en parler avec les grandes gueules au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
C'est quelques réactions qui arrivent là à propos de ce quoi qu'il en coûte voulu par Éric Ciotti. Dis-moi, je serais plutôt pour un quoi qu'il en coûte, m'écrit Ralph, pour l'hôpital. Voilà aujourd'hui où on doit mettre le paquet. L'hôpital n'a pas à être tête de budget. La justice, la police, c'est bien. Mais où est l'hôpital? Il y a Vietli qui s'interroge aussi. Encore une fois, c'est de plus en plus répressif. Ça ne fonctionne pas parce que la répression n'est pas sur les bons sujets. J'ai aussi une réaction, celle de Richard, qui lui s'interroge en disant le quoi qu'il en coûte pour la justice, pour la police, c'est une chose, mais c'est surtout aujourd'hui les mentalités qu'il faut changer, les mentalités peut-être des magistrats. Si on veut une France apaisée, une France en sécurité, il faut que les magistrats comprennent aujourd'hui la colère du peuple et mettent derrière les barreaux et qu'on ne retrouve pas toujours les mêmes, surtout les policiers.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Midi moins le quart avec les grandes gueules, Mourad Boudjelal, Charles Consigny et Laura Barton-Martinez. On discute avec vous de ce qui fait la France. Et là, on va regarder une certaine France qui est au Festival de Cannes. C'est l'hebdomadaire Marianne qui s'est intéressée aux fils et fils d'eux dans le cinéma, en prenant des exemples de couples d'acteurs célèbres et de leurs enfants.
Oui, Suzanne Lindon, Sarah Giraudeau, Louis Garrel, Vincent Cassel, Alexandre Astier, je peux en citer plein comme ça. Il y en a plein dans le dossier, l'excellent dossier Mariam, qui démontre effectivement que les fils et filles d'eux trustent en ce moment le devant de la scène. Et d'ailleurs, c'est pas un phénomène seulement franco-français. Aux États-Unis, ça existe aussi. On appelle ça les Nepo Babies. Cette nouvelle génération d'enfants de stars qui trustent les premières places. Et d'ailleurs, Marianne a fait un calcul. Ils ont pris les succès des 4-5 dernières années du cinéma français. Et 20% des premiers rôles à succès sont occupés par ses fils et filles d'eux, ses enfants d'eux. Est-ce qu'on en a marre ? Est-ce que c'est l'aristocratie, la monarchie dans le cinéma ?
Mourad Boudjelal.
Pas que dans le cinéma, c'est un peu de partout. Je veux dire, dans le sport, il y a plein de fils d'eux, à part que c'est plus facile de voir s'ils sont bons ou pas.
C'est plus subjectif.
Dans la chanson, il y a plein de fils d'eux, donc je ne sais pas si c'est... il est clair. Ben, s'ils ont du talent, oui, ça m'agace quand ils ont pas de talent et qu'ils travaillent dans des à côté du cinéma uniquement par ce qu'on appelle du piston du papa ou de la maman, bien sûr, parce qu'on est moi j'ai souvent vu des jeunes acteurs dire que ils n'ont pas eu un rôle parce qu'ils n'étaient pas fils d'eux. C'est le bruit qui court dans le monde du cinéma que si tu es fils d'eux, c'est plus simple. Bien sûr, c'est plus simple.
Mais c'est pas plus simple que dans le cinéma, c'est plus simple partout. Oui. Bah, moi, j'ai fait de la restauration parce que mes parents étaient en restauration. Vous avez plein de gens qui suivent la vocation de leurs parents et c'est comme
fils
ça.
De médecin,
fils de médecin, fils d'avocat.
Donc toi, ça ne te choque pas?
Bah non, ça me choque pas. On est souvent aussi un peu le reflet de nos parents. On va parfois souvent, mais c'est comme quand nos parents font un sport. Bah en général, on fait le même sport que nos parents. Non, c'est pas quelque chose qui me choque. Et encore une fois, la plupart du temps, c'est les téléspectateurs qui feront le meilleur des arbitrages. S'ils sont bons, quel est le problème ? Ben, y en a pas, en fait.
Ouais. Je vous trouve plein de mansuétude. Oui. Moi, je trouve ça horrible. Je suis pour l'égalité des chances. Je suis pour l'ascenseur social. Et je trouve cette captation des fonds publics du cinéma français atroce par ces gens qui vivent place Saint-Sulpice et qui font des leçons de morale à tout le monde toute la journée. Je suis désolé, mais je pense qu'il n'y a pas une semaine qui s'est passée en France depuis 1960 sans qu'on se soit tapé une leçon de morale de gauche de Vincent Lindon, à peu près. Entre deux séjours à Courchevel, il trouve le temps d'aller à France Inter donner une leçon de morale sur le thème « les pauvres, les riches », etc. Je suis désolé, je trouve que sa fille pourrait faire autre chose, par exemple. Je sais pas si c'est d'ailleurs sa fille, sa nièce, j'en sais rien.
Mais sa fille. C'est la fille de Sandrine Kiberlain.
De même que je suis désolé, madame Seydoux.
Si elle a la vocation, si elle est bonne actrice, si elle veut faire ça.
Non, mais c'est pas ce qu'il dit. Ouais, c'est-à-dire que ça prend des places.
C'est un certain nombre de si.
Je comprends.
Le gâteau, il est pas insensible.
Auxquelles les réponses sont peut-être pas évidentes. De même, je suis désolé, Léa Seydoux, non. Non, fait autre chose. Je veux dire, sa famille possède le cinéma français. Faut peut-être.
Oui, mais Charles. Voilà.
Je vous demande ce que j'en pense.
Non, mais souvent tu as envie. Tu peux avoir envie de faire le métier de tes parents parce que c'est le métier que tu as eu comme modèle. Oui. Il y a beaucoup, de médecins qui sont des fils de médecins.
Mais dans ce cas-là, d'accord, mais c'est de l'argent public globalement. On va pas se raconter d'histoire. Le cinéma français, c'est de l'argent public. Et deuxièmement, dans ce cas-là. Pas de leçon de morale. Dans ce cas-là, pas de.
Oui, sur l'égalité des chances,
pas,
et tout ça.
Pas de bandoulière, pas de. Voilà, on n'est pas là.
Quand t'as été pistonné, tu peux pas la
raconter.
Là, je suis d'accord. Déborder de trémolo sur la situation des prolétaires du Nord que tu portes tellement dans ton cœur depuis le café de Flore. Non! Tu vois, non. Il y a un moment.
Pas sûr que si Suzanne Lindon une forme de décence. C'est son père.
Non, mais son père, je vous dis, ça fait 40 ans qu'on en a une par semaine. Donc, moi, vous dites les choses comme je les ressens. Et honnêtement, ça ferait du bien que ces gens appliquent leurs principes et qu'il y ait, comme partout ailleurs d'ailleurs, de l'égalité des chances et de l'ascenseur social. Moi, je pense que la France regorge de talents.
Victor Hugo vivait dans un hôtel particulier très confortable. il a écrit
Misérable. Mourad, c'est vrai qu'on est dans un pays. C'est vrai qu'on est dans un pays qui a le mot égalité, oui, en disant l'égalité des chances, tout le monde doit avoir
c'est
sa
vent,
chance.
Ça, c'est du vent.
Et oui, mais on est très attaché à ça en France, tu sais. On a dit, on a fait la révolution justement pour qu'il n'y ait plus de privilèges. Bon, et finalement, on s'aperçoit quand même que c'est un peu la France du piston, la France des privilèges, la France du réseau, et pas seulement dans le cinéma, mais tu sais très bien comment ça marche. Mais même pour se soigner, si tu ne connais pas le bon médecin, si tu n'as pas le carnet d'adresse, eh bien, si tu connais un professeur de médecine, bah, tu as tout de suite un rendez-vous à l'hôpital. Si tu ne le connais pas, tu fais la queue comme tout le monde.
Arrête de me donner des coups.
Si, parce que moi, je suis un peu comme Charles, j'en ai un peu marre de ce discours général totalement hypocrite en France. C'est la réalité de la France, mais on fait croire que c'est l'inverse. Que tout le monde a sa chance.
Dans le domaine du sport, quand j'étais dans le rugby, on avait un centre de formation. Et même chez les très jeunes, quand c'était le fils d'un joueur qui avait très connu, bah, il avait une place d'office.
D'accord, mais le
même,
sport.
Même si on n'avait pas à regarder s'il était bon ou meilleur que d'autres, il avait sa place. Alors après, peut-être qu'il dégageait. Bah mais oui, d'entrée, dégageait. Parce que les places étaient réduites, d'entrée, il avait sa place.
Oui, voilà. Mais dans le cinéma, si tu joues mal, tu n'as pas de rôle.
Non, mais le sport, c'est objectif, c'est-à-dire que tu as une performance physique. Le cinéma, tu peux très bien.
On est éclairagiste.
Et on va avoir quatre avis différents sur Louis Garrel.
Je suis désolé, moi, sur la couverture de Marianne, j'en vois au moins deux qui n'ont aucun talent. Je ne citerai pas lesquels, mais j'en vois au moins deux qu'on voit régulièrement dans des films et qui te bluffent par leur absence de talent. C'est, je veux dire, faut dire les choses comme elles sont. Mais je vous dirai pas lesquelles pour pas être trop ad hominem.
Donc c'est subjectif.
Elle est assez doux, mais tu regardes, s'il est assez doux, elle est prise dans un James Bond, c'est qu'aux yeux de quelqu'un, elle a quand même un certain talent.
Oui, mais c'est avant, c'est pas au moment. Elle a pas démarré par James Bond.
Non, mais bien sûr.
Ce que dit Marianne, c'est que aujourd'hui,
faut être juste, elle a été à l'école de la vie. Elle l'a dit. Ah oui, bah elle l'a dit, elle a fait l'école de la vie, l'école de la rue même.
Je sais pas. Et elle a toujours dit qu'elle
a dit la vie ou la rue. Alors peut-être la rue des Saints-Pères, j'en sais rien. La rue Bonaparte.
Non, mais... je suis complètement d'accord avec l'analyse de Charles sur le fait
c'est super.
Ayez au moins la décence de vous taire sur la difficulté de la vie et de la difficulté que c'est d'être un acteur, etc. Mais il y a quand même aussi de la place pour les nouveaux, pour ceux qui se sont débrouillés, qui ont fait des auditions.
Ce qui est de moins en moins visiblement, c'est ce que dit Marianne.
C'est s'ils n'ont pas de talent que c'est un problème. Si on les garde juste parce que c'est leur nom. C'est
aussi, hein, qui n'ont pas de talent et qui sont gardés.
Oui, mais
alors pas forcément comme acteur, mais dans le cinéma, il y a beaucoup de métiers parallèles où le talent est quelque chose de facultatif. Et c'est possible aussi. C'est possible aussi, bien sûr.
Mais bon,
sûr,
moi, je trouve que ce qu'il y a de plus sympa dans cette une de chez Marianne, c'est le bandeau de tout en haut. Face à la menace Trump et Poutine, le retour en force des vieux. Moi, je trouve ça rigolo.
Mais ça n'a rien à voir.
Ce n'est pas le même sujet. Tu sais qu'on est encore à l'antenne. Hein, l'émission dure jusqu'à midi. Voilà, on est censé rester sur le sujet.
Mais c'était pour faire des calembours.
Et après, il y a un truc aussi qui est particulier. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des fils d'eux qui.
Ça va pour elle,
mais je veux dire que moi, par exemple, je veux prendre un exemple dans le sport.
Le nom, c'est un passe-partout,
Entamac. Entamac, c'était le fils, mais aujourd'hui, c'est devenu le père.
Oui, c'est vrai.
C'est parce qu'il y a des fils qui surplantent, qui deviennent plus connus que le Chédid.
Ah, bah, tiens,
le Chédid est plus connu que le Chédid.
Là, on a la jonction idéale avec l'invité de demain. On a un Duhamel demain dans les grandes gueules. Il reste la télévision, les Duhamel. C'est Patrice qui sera avec nous, l'auteur du Crépuscule des dieux, édition L'Observateur. En fait, Patrice Duhamel viendra à travers un livre nous raconter les derniers secrets des maladies des présidents Georges Pompidou, François Mitterrand, Jacques Chirac, le général de Gaulle. Et c'est surtout sur Georges Pompidou qu'on a des révélations.
Bah,
et
on apprend que Georges Pompidou était malade avant même de se présenter. Il le savait, mais il s'est quand même présenté. Il revient aussi sur le fait qu'il y a sans doute deux présidents qui ont continué à exercer le pouvoir alors qu'ils n'étaient plus en capacité, Jacques Chirac et François Mitterrand. Donc ça pose la question quand même démocratique. Est-ce qu'on est gouverné par des malades? C'est quand même un peu embêtant.
Patrice, il faut faire rentrer les malades mentaux aussi.
Patrice Duhamel, il y en a aussi qui sont au pouvoir. Patrice Duhamel sera demain avec nous, avec Antoine Dierce, avec Bruno Poncet, avec Joël Dagosséry. Bonjour Estelle Denis. Le débat va continuer sur RMC et RMC Story.
Mais tout à fait. Et puisqu'on parle de président, nous, on va parler d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, de leur vie intime dévoilée dans un livre signé Florent Tardif, qui sera chez vous d'ailleurs vendredi comme invité. Bah, on y apprend l'histoire de la gifle.
Ah, c'est croustille.
C'est une histoire de jalousie. Voilà. Eh oui.
Ça arrive dans tous les couples.
Hein. Mais c'est croustille.
Oui, mais oui, mais d'accord. Alors, comme dans tous les couples, mais sauf que Brigitte Macron et Emmanuel Macron, c'est pas un couple comme les autres. Est-ce que franchement, on ça va pas
on
trop
doit
loin
savoir.
Ces révélations. Est-ce que on aurait dû attendre qu'Emmanuel Macron ne soit pas plus au pouvoir pour publier ce livre? Écoutez, on en parlera.
A-t-on attendu pour François Hollande?
A-t-on attendu? Non,
ah non, il était président pas. Et un magazine People a publié la photo de François Hollande allant voir sa dulcinée.
Non, mais je suis d'accord, mais enfin, il avait qu'à pas prendre un scooter, etc. Là, quand même, c'est.
Bah, c'est un peu une histoire
privée
de
couple, quoi.
Elle lui a giflé.
C'est la gifle devant les caméras.
Oui, et l'Élysée avait dit c'est un moment de complicité.
Ah, bah oui, tout le monde l'avait cru.
Alors, ensuite.
Mais pardon, mais c'est tellement croustillant.
Moi, je gifle pour le juge complice.
On en parle avec vous dans un instant. On parlera également d'Mbappé qui attaque le RN. Est-ce qu'un capitaine a vraiment le droit de dire ça? Voilà, d'attaquer le RN et de dire qu'on connaît les conséquences sur le pays si ces gens-là arrivaient au pouvoir. On en parlera à 13h30. On parlera également de l'entrée du mot marrainé dans le dictionnaire. Est-ce qu'il faut tout féminiser? Voilà. Est-ce que tous les mots aient un féminin? Par exemple, vainqueur, mais il n'y a pas de féminin.
Vainqueuse,
normal.
Bah, c'est moche.
Bah, la gagnante. Puis voilà.
Ah oui, bah, d'accord. Bah, et pourquoi on n'aurait pas la vainqueuse, justement?
Victorieuse.
Ah bah écoutez, en
victorieux,
tout cas,
victorieuse.
On a la perdante, par contre.
On a la gagnante aussi. Ouais. Mais on n'a pas la vainqueuse.
Le tu préfères.
Allez, c'est ce qu'on attend.
Attendez. Non, mais j'ai un sujet de 14h. Il y a l'essor des coachs de prénoms pour les enfants. Il y a des gens, ils prennent un coach pour les aider à trouver le prénom de leur enfant. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pourriez faire appel à des coachs pour trouver le prénom de votre enfant? Ce sera à 14h.
Allez, 32-16 pour agir chez Estelle. Bonne émission jusqu'à 15h.